Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une nouvelle chronique du Pays Toulousain en compagnie d'Aline Thomazin. Bonjour Aline.
Bonjour Sébastien.
Et bonjour Michel de Rivoire pour Demeures et Familles.
Bonjour Aline, bonjour Sébastien.
Et Michel nous promène en laisse. Rumage et placemage. Et cette semaine, avec quelle famille, Michel?
Alors, avant de parler des familles, on va s'attacher à cette rue qui est une rue très importante du quartier parlementaire.
Riche d'immeubles.
Oui, on a d'ailleurs évoqué l'hôtel d'Orbessan, là, une fois précédente, je crois. Et cette rue est orientée nord-sud. Donc, elle est certainement dans le quadrillage de Romain. C'est une rue vraiment centrale, avant, le réseau que nous connaissons aujourd'hui. Elle va du carrefour en triangle qui s'appelait Place Mage, à la jonction des rues Perchepinte et Grande Rue Nazareth, parfois appelée Place Perchepinte. Et c'est cette Place Perchepinte donc, qui reçoit la rue du même nom et qui, le départ de la Grande Rue Nazareth, est dans le dos de l'ancien Grand Hôtel Mansancal qu'on avait également étudié.
Nous sommes aujourd'hui dans l'hyper-hyper-centre.
Oui.
De la ville.
Ah oui, ça, l'hypercentre et concentration de ces messieurs du Parlement.
De pouvoir.
Nous étions jusqu'à la Révolution entre deux capitoulats. Cette rue était si importante que à l'est, c'est-à-dire à droite, quand on va vers la place Mage, c'était le capitoulat de Saint-Barthélemy et à gauche, si vous voulez, à l'ouest, capitoulat de La Pierre. Donc, c'est une rue qui...
Le marché de la pierre, on peut...
Place Esquirol. Oui, oui, tout à fait. Donc, une rue qui s'est appelée, d'un nom compliqué pour nous, hein, mais il reste une plaque de rue à l'angle de l'hôtel d'Espied, nous allons voir, et de la rue d'Ossard, qui s'appelle rue de la Place Mage. Et le nom complet, c'était rue de la Place Mage des Afachadous. Mais vous le sauriez le dire en patois, enfin en occitan, pardon. Place Mager dels Afachadors.
Ah oui. Quelle était la fonction
alors,
de Afachadors?
Eh bien, c'est intéressant parce que...
C'est un mot un peu compliqué. On va un petit peu
délaisser ces messieurs du Parlement, qui nous occupent presque à chaque fois, pour parler de la confrérie, ou plus exactement... des bouchers.
Ah oui.
C'était la corporation des bouchers, des Afachadors.
Ah oui. Alors, qui était installée là.
Oui, sans doute pour des raisons, de proximité des abattoirs ou en tout cas des portes, marchés.
Des marchés,
bien sûr, oui. À l'époque, c'était pas le marché des Carmes qui n'existait pas encore.
Bon, on n'y pense plus du tout aujourd'hui.
Et non, c'était un nom qui a vraiment disparu.
La qualité de ce quartier. Ne laisse pas imaginer des étals de bouchers.
Voilà, mais tant mieux, c'est bien aussi de rappeler leur mémoire. La rue a changé de nom, mais pas souvent. Une fois, elle s'appelait Grande Rue Saint-Étienne, et pendant la Révolution française, Rue des Droits de l'Homme.
Qui n'est pas restée, probablement.
Le temps jusqu'à Napoléon, pratiquement. Donc, dans cette rue intéressante, nous avons au moins trois hôtels. Nous n'allons pas reparler de l'hôtel d'Orbessan, que nous avons déjà évoqué, qui retiennent l'attention, qui sont l'hôtel d'Espy, ou McCarthy, ou bien encore Courtois de Lissose. Ensuite, l'hôtel d'Aiguevive, l'hôtel, et enfin l'hôtel d'Avas, avec la tour Régnier dans la cour. Donc,
est-ce que vous pourrez nous donner les numéros pour que nos auditeurs puissent... Quand ils vont à les rumages,
qui prennent leur smartphone, n'est-ce pas, et que à la fois ils écoutent l'émission et ils puissent se retrouver sur un plan, se repérer. Aline, il faut tout de même parler du grand incendie, encore une fois, parce que c'est
très
déterminant
important.
Dans la construction de ces hôtels.
Vous avez complètement raison.
Est-ce que vous pouvez nous faire un rappel pour nos chers auditeurs de ce que ça représentait?
Oui, c'est le grand incendie de Toulouse qui a ruiné à peu près, on va dire, 80% de la ville. Qui a pris naissance tout près de la Rue Mage, ce qui est aujourd'hui
boulangerie,
la place Rouex. Et c'est un incendie qui a provoqué un petit peu un remaniement foncier, mais qui a été un remaniement foncier qui a été porté par des privés. Contrairement à d'autres villes où on a appris des incendies qui étaient fréquents au Moyen-Âge, bon, refait un petit peu le parcellaire de façon un peu plus publique, mais à Toulouse, mais je vous laisse.
Oui, parce que nous avons trois hôtels à regarder un peu rapidement. Donc,
parce qu'on a. On a acheté plusieurs parcelles pour faire ces hôtels.
Voilà. Et donc, les bouchers dans un coin et les financiers d'un autre ont racheté ces parcelles. Mmh. Et parmi ceux-là...
C'était des petites maisons successives.
Oui. Voilà, des petites formes, des petites parcelles, effectivement. On trouve la famille de Purpan qui achète et construit. Et puis, également, un Jean de Pince qui construit...
Ah oui, famille de Pince.
Voilà, l'hôtel qui est de l'autre côté de la rue aux Aides maintenant. Mais intéressons-nous d'abord à l'hôtel d'Espy, qui est donc aux 3 rues Mages, à l'angle de la rue d'Aussargues. Et vu de là-haut, c'est-à-dire vu de satellite, sur une vue satellite, on voit bien que c'est un hôtel entre cour et jardin. Mmh. Et le haut mur ferme le jardin le long de la rue d'Aussargues. Au XVIe siècle, l'immeuble appartient à Raymond de Saint-Félix. Alors ce n'est pas un boucher. C'est une des plus vieilles familles du Toulousain. Conseiller au Parlement, seigneur d'Aussargues, d'où le nom de la rue, et il possède ce terrain de 3000 mètres carrés. Il a fait un joli mariage, c'est une ritournelle, nous le disons souvent,
oui. Pour
l'époque. Il est marié à Éléonore Dufort de Saint-Jory, la fille du président, et d'Éléonore de Bernuy, sa mère. Par succession et agrandissement, on trouve en 1749 le comte d'Espy qui a une activité, son père surtout, a amassé une grosse fortune au Portugal. Et il commande dès 1749 à l'architecte Hyacinthe de Labatte de Savignac, venant de Bordeaux, il commande un hôtel, selon les goûts du jour et surtout l'organisation du milieu du XVIIIe siècle, plan classique entre cour et jardin, nous l'avons dit, des services disposés sur la rue, et de chaque côté de la porte à carrosse, qui elle-même est de biais, on le voit bien, elle détonne sur cette rue très étroite, qui est d'ailleurs, cette porte à carrosse, le seul ornement de la façade sur rue.
Oui, qui est oui.
Mais c'est à l'intérieur...
Très monumental, mais très sobre.
Oui. À l'intérieur, on a un hôtel très, très classique, avec une grande cour minérale, des grandes baies vitrées, mais on en dira un mot rapidement, en évoquant les autres propriétaires. Donc, malheureusement, il perd sa grosse fortune, des revers de fortune, n'est-ce pas, qui met fin à ses projets. Il ne peut pas achever l'hôtel, et celui-ci est vendu à un grand personnage. Vraiment, on a affaire à des...
C'est toujours le top 10
au gratin, voilà, oui. Puisqu'il s'agit du sénéchal en titre, qui est autre que Henri Auguste de Chalvet de Rochemontais. C'est date 1713-1778. C'est vraiment le plein règne de Louis XV. Il est seigneur de Merville, marquis d'Auziel, et son sénéchal de Toulouse et d'Albigeois. Il a acquis l'hôtel au comte d'Espy pour 46 000 livres, qui est quand même une grosse somme pour l'époque. Et c'est lui qui va
le terminer.
Le gros œuvre, les aménagements. Ça sera plus tardif. Ouais. Il le garde très peu. La construction de son château à Merville et sa passion pour les collections d'œuvres d'art, de tableaux, absorbèrent toute sa fortune. Il meurt en 1772. C'est son fils aîné qui lui succède, qui va régler toute la succession et vendre à la fois la charge héréditaire de sénéchal et l'hôtel de la rue Mages, plus du double. À monsieur...
Ah, oui.
Mister, devrais-je dire, McCarthy Reag, alors je prononce à la française, mais il est effectivement irlandais. C'est date 1744-1811, et c'est lui qui va achever, dans un goût extrêmement raffiné, de type Louis XVI, la décoration intérieure, avec un très riche escalier, avec une rampe attribuée à Orthez. Alors, cet Irlandais a l'air très sympathique quand on regarde un petit peu sa bio. Il a beaucoup de choses pour lui. C'est un homme éclairé, mais sage en même temps. Il a une très riche bibliothèque qui, à l'époque, était célèbre dans toute l'Europe. Mais, comme souvent, tout est dispersé à sa mort. Et on n'en a plus trouvé de traces. Il reste dans la famille jusqu'en 1868, c'est-à-dire aux fins du Second Empire. Et c'est à ce moment-là, un petit peu après, qu'on trouve la famille Courtois de Vissose. Courtois de Vissose, c'est la banque. La banque célèbre, la banque Courtois. Et là, on ne peut pas parler trop rapidement de cette famille aujourd'hui. On ne peut que la citer tellement il faudrait se pencher sur ce parcours intéressant.
Très, très belle dynastie.
N'est-ce pas? Oui. On peut juste signaler, donc c'est eux qui ont vraiment possédé l'hôtel jusqu'à nos jours. Hein,
jusqu'à nos jours, là. Oui, oui.
On les trouve tout de même à la campagne. Hein, ils ont aussi bien pris les codes. C'est une famille de Capitoul. Hein, il n'y a pas de problème, ancienne. Et on les trouve notamment au château d'Issus, qui est à 35 km au sud de Toulouse. Citons la mémoire d'un des banquiers au XXe siècle, qui est Louis Courtois de Vissoz, et qui a été déporté au camp de Neuengamme, parce qu'il avait aidé des personnes juives. Voilà. Et il est mort là-bas. Enfin, l'hôtel d'Aiguevive, que je ne peux également que citer, parce que c'était aussi une famille qui a beaucoup brillé au Parlement. Nous avons un conseiller, président des enquêtes, la Chambre des enquêtes.
Qui est à quel numéro de la rue?
Qui est au numéro 16 de la rue Mage, à peu près au milieu. Alors, pour ces deux hôtels, autant l'hôtel McCarthy est protégé au titre des monuments historiques, l'hôtel d'Aiguevive ne l'est pas, n'a pas de protection. Donc, Jules Chaland dit que c'est une des plus jolies façades ornées de la rue Mage. Donc, on peut citer ce parlementaire qui a été guillotiné avec ses confrères du Parlement le 26 février en 2, c'est-à-dire en 1794. Donc, à cette époque, on a l'anecdote d'un prêtre réfractaire qui était caché dans la cave de cet immeuble et qu'on nourrissait discrètement par un soupirail donnant sur la rue, malheureusement. Voilà, et il existe un inventaire du mobilier de l'hôtel qui est dans la descendance de cette famille, qui possédait le château d'Aiguevive, et combien de seigneuries dans le Raguet Sud.
Et aucun d'eux ne se visite. Ce sont des propriétés.
Alors, le château d'Aiguevive est devenu la mairie, après avoir été vendu par la famille au fin 19e siècle.
Les hôtels Rumage.
Et les hôtels Rumage sont tous maintenant divisés, copropriétés, locataires, etc.
Des propriétés privées.
Bien sûr.
Peut-être
bien
à l'occasion de des journées du patrimoine pour la cour d'un de ces hôtels, je crois.
Oui, on rentre si les portails fonctionnent et les propriétaires veulent bien. Citons rapidement l'hôtel d'Avas pour terminer et la tour de Régnier qui également vint Rumage.
Très bien. Donc, il faut retenir de cette Rumage anciennement vouée à l'activité que nous avons évoquée tout à l'heure est une vraie richesse pour la découverte des hôtels particuliers
facile à trouver
de la ville.
Voilà.
Merci beaucoup, Michel.
Bonne semaine.